RCF.
L'Hebdo-Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette Hebdo-Région. On va commencer dans quelques instants avec l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, c'est bien évidemment la victoire d'Armel Lecléache sur le Vendée Globe. Avec un reportage de la rédaction de RCF Vendée, nous vous proposerons de revivre comme si vous y étiez cet événement. Ensuite, direction la Sarthe pour y retrouver Aubery Métro de RCF Le Mans qui nous présentera une initiative qui nous concerne tous puisqu'il s'agit de faire une bonne action en donnant son sang. Et puis après l'initiative de la semaine, nous ferons une petite pause spirituelle en compagnie de Samuel Pecot de Fidélité Mayenne qui nous fera revivre le 146e anniversaire des apparitions de la Vierge à Pontmain. Après cette pause spirituelle, nous retrouverons de nouveau Aubery Métro de RCF Le Mans qui nous fera rencontrer le directeur d'Emmaüs Sarthe à l'occasion des 10 ans de la mort de l'abbé Pierre. Et enfin, dans la rubrique culturelle, Bastien Lallier nous présentera la 29e édition du festival Premier Plan, un événement au rayonnement international qui met en compétition les films de jeunes réalisateurs européens. Voilà donc pour le sommaire de cette émission, c'est l'Hebdo-Région qui vous est présentée par la rédaction de RCF Vendée en collaboration avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'Hebdo-Région, l'actu de la semaine.
Et l'actualité de la semaine, c'est bien évidemment la victoire du Breton Armel Lecléache sur ce 8e Vendée Globe. Il est arrivé hier après-midi au Sable d'Olonne. Je vous propose de revivre ce moment d'émotion.
Top, arrivée de Banque Populaire. Arrivée de Banque Populaire, vainqueur du Vendée Globe 2016.
Armel Lecléache, sacré roi du globe, c'était hier après-midi à 16h37 et 46 secondes au large des Sables d'Olonne, après avoir réussi l'exploit de boucler le tour du monde à la voile, sans escale ni assistance, en 74 jours, 3h35 minutes et 46 secondes. Le skipper de Banque Populaire 8 bat donc le record de son prédécesseur François Gabart de 3 jours, 22h et 41 minutes. Après deux tentatives auxquelles il n'obtient que la deuxième place, le skipper breton de 39 ans décroche enfin son Graal. Dès la ligne d'arrivée, l'émotion est forte.
Enfin, c'est énorme, là. C'est une émotion incroyable. Je ne me rends pas trop compte en fait, de ce qui m'arrive. Les derniers jours ont été très intenses. Donc voilà, je réalise que j'ai fait quelque chose d'énorme et c'est génial. C'est génial. J'ai rien lâché, pas un mètre. Chaque mètre gagné, c'était dur. Et puis, je voulais tellement cette victoire. Voilà, j'ai réussi. Je suis trop content.
C'est vers 18h15 qu'Armel Lecléache a pu savourer enfin les fruits de sa victoire. Et dès qu'il a pu commencer à remonter le chenal des Sables d'Olonne à la faveur de la marée montante, sous les applaudissements d'une foule nombreuse et compacte venue l'applaudir malgré un froid polaire. Les premiers feux d'artifice illuminent le ciel vendéen. Sur le pont de son bateau, Armel Lecléache craque ses fumigènes et embrase la foule. L'osmose entre le skipper et son public est parfaite. Eux aussi sont très heureux de sa belle victoire. Les centaines de personnes qui sont venues l'accueillir sur le ponton de Port-Olona. Certains étaient venus de très loin, comme Hervé et Jean-Claude, venus exprès depuis le département de la Creuse.
On est habitué à venir au Sable d'Olonne depuis 35 ans. Et donc on entend tellement parler du Vendée Globe depuis X années qu'on vient. Cette année, je me suis dit, il faut que j'aille voir le départ. Et quand on est venu voir le départ, on a dit, c'est tellement formidable, il faut qu'on vienne voir l'arrivée. Et voilà, et on est venu voir l'arrivée, sans être des passionnés et connaisseurs, pas du tout. Hein.
Moi aussi, je suis d'origine creusoise, quoi, et bon, on ne connaît pas vraiment le milieu de la voile, mais je pense que c'est une belle aventure humaine, et puis, voilà, c'est largement relayé par les médias, donc ça nous incite à venir. Hein, et puis, bon, moi, personnellement, j'aime bien voyager, je fais beaucoup de marches, et j'assimile ça aussi à... C'est une belle aventure humaine, quoi, c'est des hommes qui ont... de grande valeur. C'est pour ça que je suis là.
Conformément à sa réputation, le Chacal n'a rien lâché, mais son poursuivant britannique au puissant bateau noir n'a pas lâché grand-chose non plus, s'affirmant comme son fidèle rival depuis le début. Armel Lecléache aura 40 ans le 11 mai prochain, à la veille de la remise des prix du 8e Vendée Globe. Il y recevra le plus beau des cadeaux d'anniversaire, ce trophée qu'il convoite maintenant depuis 10 ans. Voilà l'arrivée d'Armel Lecléache hier après-midi, en fin d'après-midi au Sable d'Olonne, comme si vous y étiez. Le chevalier noir Alex Thompson, le britannique, est lui arrivé ce vendredi matin à 8h37, prenant ainsi la seconde place de cette 8e édition du Vendée Globe 2016-2017, après 74 jours, 19h35, quelques 16 heures après donc le vainqueur Armel Lecléache. Et parce qu'il n'y a pas que le Vendée Globe, voilà ce que l'on peut retenir cette semaine dans le reste de l'actualité régionale. La météo qui est évidemment très froide, voire même glaciale. Les températures sont descendues largement en dessous de zéro ces derniers jours, jusqu'à moins 8 degrés en Sarthe. Sans parler du vent qui augmente cette sensation glaciale. Une situation donc compliquée pour les plus fragiles d'entre nous. Alors pour éviter les drames et mettre à l'abri les sans-domicile fixe, l'État a activé le plan grand froid. Chaque préfecture a augmenté son nombre de places des hébergement d'urgence. Dans la Sarthe, l'université du Maine change de nom à partir du 1er septembre 2017. Elle deviendra Le Mans Université. L'antenne de Laval sera, elle, nommée Le Mans Université Campus de Laval. Dans le cadre de ce changement, les Sarthois sont invités à voter pour le nouveau logo de la fac jusqu'à la fin du mois. Et à Angers, dans le Maine-et-Loire, les affiches de prévention contre le VIH déployées sur les abribus, notamment au mois de novembre, continuent de faire couler de l'encre. L'association Mousse, qui lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, a décidé de porter plainte contre plusieurs mairies, et notamment celle d'Angers. Pour rappel, la majorité angevine avait pris la décision de retirer les affiches mettant en scène des couples homosexuels pour ne pas heurter la sensibilité des enfants. Certains panneaux ayant été installés à proximité d'écoles, interpellés sur le sujet par nos confrères de Ouest France, Christophe Béchu, maire d'Angers, n'a pas souhaité faire de commentaires. Voilà, on poursuit cette hebdo région et on file la direction la Sarthe pour y découvrir maintenant l'initiative de la semaine.
L'hebdo région, initiative.
Et pour cette initiative, nous retrouvons Aubery Métro de RCF Le Mans. Bonjour à vous.
Bonjour Thomas.
Alors Aubery, l'initiative de cette semaine nous concerne tous, puisqu'il s'agit de faire une bonne action en donnant son sang.
Et oui, cela en prend en moyenne 30 minutes, et pourtant cela peut sauver de nombreuses vies. Vous l'avez sûrement entendu, les stocks sont au plus bas, et l'établissement français du sang appelle donc les donneurs à se mobiliser. Plusieurs raisons expliquent cette baisse, selon Johan Roustel, le président de l'association Cénomane pour le don du sang.
Depuis à peu près la mi-décembre, on constate qu'il y a une baisse de la fréquentation des collègues de l'ordre de 10 à 20%. Au mois de décembre, c'était dû aux fêtes de fin d'année, Noël, premier de l'an. Et puis est arrivée l'épidémie de grippe, les rhinopharyngites, les gastro-entérites. Tout ça, ce sont des petits virus hivernaux qui font en sorte que les donneurs ne peuvent plus se présenter sur les collectes. Et avec cela, il y a également une contre-indication de 15 jours jusqu'à la guérison. De toute façon, il y a un entretien médical avec un médecin. Lors de cet entretien, le médecin va voir si vous pouvez ou non donner votre sang. Ce qui est très important également à préciser, c'est qu'une fois que vous avez donné votre sang et que vous êtes infecté par le virus de la grippe ou que vous avez une gastro-entérite, il est très important de téléphoner à l'établissement français du sang pour faire part de votre maladie, de façon à ce que la poche puisse après être retirée de la circulation pour éviter toute contamination à un malade.
Alors Aubery, quelle est la situation en Pays de la Loire ?
Eh bien l'année dernière, un peu plus de 98 000 personnes ont donné leur sang, leurs plaquettes ou leur plasma dans notre région. C'est suffisant pour couvrir les besoins quotidiens comme les opérations, les accidents de la route ou encore les chimiothérapies. Mais ce n'est pas assez en cas d'événement imprévu comme ce gros carambolage il y a quelques semaines en Vendée ou bien un attentat.
En Pays de la Loire, les besoins sont de 650 dons tous les jours. Donc c'est vrai que c'est quand même relativement important. Rien que sur le département de la Sarthe, il nous faut entre 70 et 80 dons tous les jours, que ce soit en don de sang, en don de plasma ou en don de plaquettes. Les besoins sont quand même relativement importants. Les prévisions de l'EFS pour la fin d'année étaient de prélever 100 000 poches de sang. Avec toutes les pénuries qu'il y a, on est en dessous. Il y a eu à peu près 85 000 poches qui ont été prélevées. Et ça, donc on voit que les besoins sont importants et que systématiquement, collecte après collecte, il y a beaucoup moins de donneurs. Donc actuellement en Sarthe, on est encore bon. On arrive à avoir les 70 poches. Simplement, c'est qu'il y a des régions en France qui n'arrivent pas à avoir ces chiffres-là. Et donc du coup, les Pays de Loire aident les régions en difficulté.
Un petit rappel, Aubery, de ce qu'il faut savoir pour pouvoir donner son sang.
Alors, il existe 6 maisons de dons en Pays de la Loire. C'est assez pratique hein, parce que ça permet de prendre rendez-vous pour aller donner son sang. Et puis, il y a plus de 1700 collectes qui sont organisées chaque année dans notre région. Si vous souhaitez être donneur, vous devez avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kilos. Et n'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité. Les bénévoles vous conseillent aussi de vous hydrater avant et après. Et puis, un petit appel à vous, les hommes, car on constate que vous n'êtes pas assez à donner votre sang en Pays de la Loire.
Je voudrais essayer de vraiment sensibiliser les hommes, puisque en fin de compte, c'est eux principalement qui vont pouvoir donner en plasma et en plaquettes. Donc c'est des dons également qu'on a énormément besoin pour notamment les traitements de chimiothérapie. C'est difficile. Alors c'est un petit peu paradoxal, puisque en fin de compte, nous, avec l'association Cénomane, on a une collecte à l'université. À l'université, il y a une fréquentation de 60% à peu près d'hommes. Alors est-ce que c'est parce que ils veulent faire les gros bras auprès des demoiselles, en disant voilà, moi je suis un super héros, je vais donner mon sang. Mais après, ça s'essouffle et on change. En fin de compte, c'est à peu près 60% de femmes qui viennent sur les collectes.
Et puis alors certains rhésus sont plus recherchés que d'autres, notamment les rhésus négatifs. On appelle aussi les donneurs des groupes O positifs à se mobiliser. Et puis pour les donneurs de plasma, ce sont les groupes AB qui sont les plus recherchés, Thomas.
Voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup Aubery. Vous restez avec nous Aubery, on se retrouve dans quelques instants pour la rencontre de la semaine. Mais tout d'abord on va quitter la Sarthe, direction Laval maintenant. C'est l'heure de la pause spirituelle. Et pour cela, on retrouve Samuel Pécaud de Fidélité Mayenne. Bonjour Samuel.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous.
C'était le 17 janvier 1871, la Vierge est apparue à Pontmain, petit village du Nord Mayenne. Et mardi, pour fêter ce 146e anniversaire de l'apparition, 3000 fidèles étaient réunis autour de la basilique de Pontmain. L'engouement pour ce sanctuaire et pour le message de Pontmain ne se dément pas.
Effectivement, 3000 fidèles de l'ouest de la France ont bravé le froid mardi matin pour venir célébrer la Vierge Marie, qui est apparue il y a 146 ans dans cette bourgade, qui avait vu 38 enfants partir faire la guerre contre les Prussiens. Les Prussiens avançaient et la population très pieuse, encouragée à la prière par leur curé Michel Guérin, était totalement désespérée en ces débuts d'année 1871. Je vous propose d'écouter le père Henri Le Dauphin, qui a été curé de Pontmain et qui vient de nous quitter. Il était alors interrogé par Christelle de Limerville.
Le dimanche 15 janvier 1871, monsieur le curé s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose. Il en avait fait la remarque à ses paroissiens. « Mes amis, vous n'avez pas prié comme d'habitude. » Et alors des paroissiens ont osé venir lui dire « À quoi bon prier, monsieur le curé ? Dieu ne nous écoute pas et n'exauce pas nos prières. » Alors là, ils étaient complètement découragés. Ils étaient au bout du rouleau, quoi. Et alors, c'est là que Michel Guérin leur a dit « Allons, les amis, chantons notre cantique à Marie. » Alors bon, avec des larmes plein les yeux, la gorge serrée par l'émotion, ils ont quand même chanté leur cantique « Mère de l'espérance ». Sans se douter que la réponse allait venir le surlendemain. Et quelle réponse, puisque c'est Marie elle-même qui l'apporte.
Effectivement, la suite sera heureuse. La situation va totalement s'inverser en quelques jours, comme nous le relate le père Martin Quéda, chapelain du sanctuaire de Pontmain, au micro d'Isabelle Rupin.
Ils attendaient lundi, qu'est-ce qui va advenir, les soldats aux portes de Laval, est-ce qu'il y a raison d'espérer ou pas, et la surprise du 17 mardi, où la Vierge vient leur redonner cette espérance. Cette Vierge qu'ils aimaient chanter, Mère de l'espérance, va justement enfanter dans leur cœur l'espérance. Voilà. Et nous savons que la suite est heureuse.
Effectivement, le mardi 17 janvier 1871, la Vierge est apparue dans le ciel de Pontmain en fin d'après-midi, avec une robe bleue ornée d'étoiles dorées. 4 enfants du village d'une dizaine d'années l'ont vue, Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Le Bossé. Ils contemplèrent la belle dame et la voient écrire dans le ciel « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps ». Et effectivement, les Prussiens qui devaient prendre Laval ce soir-là n'y sont pas entrés. Le lendemain, ils se sont repliés. L'armistice est signé le 25 janvier 1871 et les 38 jeunes de Pontmain partis à la guerre reviennent tous sains et saufs. Un message de paix qui est donc depuis célébré tous les 17 janvier à Pontmain. Et cette année, son éminence le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, est venu présider la messe du 146e anniversaire et Véronique Lara a recueilli sa réaction à l'issue de la cérémonie.
Oui, c'est la première fois que je viens donc en Mayenne. J'étais très heureux d'ailleurs d'être reçu à l'évêché, de voir la ville de Laval aussi, et puis de découvrir Pontmain. Pontmain, j'en avais entendu parler, ça fait partie quand même de ces grands lieux d'apparition de la Vierge en France, mais je n'étais jamais venu à Pontmain, et je dois avouer que j'ai été particulièrement séduit par la basilique. D'abord, les flèches que l'on voit apparaître, et puis alors à l'intérieur, j'allais dire, ce bleu, cette lumière qui vous tire vers le haut, hein, vous tire vers le ciel. Hein. Je trouve que c'est un lieu de prière, à mon avis, qui est très très porteur.
Et d'ailleurs, ce sont plus de 200 000 pèlerins qui viennent chaque année au sanctuaire de Pontmain, ce qui en fait le site mayennais le plus visité. Et je le rappelle, ils étaient 3 000 fidèles ce mardi pour célébrer le 146e anniversaire de l'apparition.
Merci beaucoup Samuel Pécaud et je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Allez, dans le reste de l'actualité de nos diocèses, toujours en Mayenne, à noter que ce dimanche, une messe sera célébrée par Mgr Scherrer, l'évêque de Laval, en l'église de Saint-Cyr-le-Gravelet à l'ouest de Laval, pour remercier Saint-Sébastien d'avoir sauvé le village de la peste. Et là encore, c'est à souligner, les Mayennais ont de la mémoire, ils honorent leurs paroles et conservent les traditions. C'était en effet il y a 266 ans que la paroisse demanda de l'aide à Saint-Sébastien, protecteur contre la peste, en faisant le vœu de célébrer sa fête chaque année, une promesse que le village a toujours honorée depuis l'an 1750. Allez, on continue cette hebdo-région, nous retournons cette fois-ci dans la Sarthe.
L'hebdo-région, rencontre avec...
Et nous retrouvons Aubery Métro de RCF Le Mans. Dimanche, cela fera 10 ans que l'abbé Pierre nous a quittés. À cette occasion, vous avez rencontré le co-directeur d'Emmaüs Sarthe.
Oui, et Laurent Roy garde un souvenir ému de l'abbé Pierre, le fondateur de l'association, l'accompagne en quelque sorte au quotidien.
Il a laissé quelque chose d'éminemment humain dans le cœur de notre organisation. La première chose qu'il laisse, c'est d'abord toute l'importance du lien humain qui est nécessaire entre les hommes pour devenir des hommes solidaires, pour garder à l'esprit que l'important, c'est bien évidemment la solidarité. Mais il laisse aussi des marques pour l'action. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui considérait que l'action était la première chose à faire. C'était le lien dans le travail, mais dans l'action auprès des personnes en situation d'exclusion. Et aujourd'hui encore, l'exclusion n'a pas disparu, mais non seulement sa philosophie est pérenne, mais en même temps, l'action aujourd'hui, celle que l'on mène, elle est nécessaire et fondamentale dans la société d'aujourd'hui, où il y a de plus en plus de personnes exclues, de plus en plus de personnes dans la misère.
Et Thomas, est-ce que vous connaissez le nom du président de la Fondation Emmaüs France ?
Là, comme ça, non.
Eh ben, soyez pas désolé, hein, parce que moi non plus, avant de préparer cette rencontre, je ne savais pas que c'était Thierry Kuhn. Et pour Laurent Roy, eh bien, c'est là l'un des problèmes principaux d'Emmaüs aujourd'hui.
C'était quelqu'un qui avait une aura très particulière. C'est un grand homme doté d'un pouvoir de communication hors du commun. Et au jour d'aujourd'hui, comme il n'est plus là, on peine à avoir des gens qui aient la même dimension, si vous voulez. Je mets au défi quiconque de me donner le nom du nouveau président d'Emmaüs France, celui d'Emmaüs International. Personne ne les connaît. Or, l'abbé Pierre avait... alors, c'est peut-être une question d'époque, mais je pense que c'est aussi une question de personnalité. Avait un réel pouvoir, un réel talent de communicant. C'était quelque chose d'authentique. C'était pas de la communication pour tricher. C'était vraiment une communication sincère, authentique.
Et à l'occasion de l'anniversaire de la mort de l'abbé Pierre, y a-t-il des choses de prévues ?
Eh bien, en Sarthe, un rond-point à son nom va être inauguré dimanche, juste à côté de l'endroit où est installée la communauté. Mais d'autres événements sont prévus, notamment à Paris. Les détails avec Laurent Roy.
Il y a d'abord le lancement de Acte Emmaüs, qui est un site dédié à l'abbé Pierre, pour justement faire parler de son action et de lui. Donc il sera lancé le 22 janvier avec des actions qui se déroulent partout sur la planète. Et puis en même temps à Paris le 22 janvier, il y aura un village Emmaüs de construit avec beaucoup d'interventions, Pierre Rabhi, Jacques Généreux, enfin plein de sommités qui seront là pour parler un petit peu de qui il était et de l'action aujourd'hui auprès des personnes exclues.
Alors vous l'aurez compris, Emmaüs compte sur cet anniversaire pour relancer un peu sa communication. Et à cette occasion, l'association a édité des flyers cartonnés avec une citation de l'abbé Pierre.
Lors de l'Assemblée mondiale de Gesolo en 2016, on a repris des phrases, on s'inspire énormément de ce qu'il a laissé comme héritage pour conduire notre action au jour d'aujourd'hui. Et il y en a une qui est importante, qui concerne l'insurrection de l'intelligence contre l'absurde et pour la justice. Il disait « Il ne suffit pas d'agir, il faut vaincre ». C'est-à-dire agir plus que n'agissent les forces du recul. Et ça, il l'a dit en 1959. C'est quelque chose qui nous percute encore aujourd'hui.
En Sarthe, la communauté accueille en ce moment une cinquantaine de compagnons en situation de précarité.
Aubery Métro de RCF Le Mans, merci beaucoup Aubery. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine.
Bonne semaine Thomas.
Allez, on termine cette hebdo-région des Pays de la Loire avec notre dernière rubrique culturelle.
L'hebdo-région, si on sortait.
Direction l'Anjou, aujourd'hui on y retrouve Bastien Lallier de RCF Anjou. Bonjour Bastien.
Et bonjour Thomas, bonjour à tous.
Ce week-end s'ouvre la 29e édition du festival Premier Plan, un événement au rayonnement international qui met en compétition les films de jeunes réalisateurs européens. Et il risque d'y avoir du beau monde durant ces 10 jours de festival.
Et oui, passer une journée avec le cinéaste Bertrand Tavernier, découvrir ou redécouvrir la filmographie d'Emmanuel Devos en sa compagnie, échanger avec le réalisateur Costa Gavras, tout cela sera possible lors de cette 29e édition du festival Premier Plan. Il y a un mois, les organisateurs dévoilaient au public la sélection officielle des films en compétition, une centaine au total. Ils seront jugés par un jury d'experts présidé par Lambert Wilson. Au programme également, plusieurs avant-premières, quelques séances spéciales et un focus sur l'œuvre des frères Dardenne qui seront également présents cette année. Pour Claude-Éric Poirot, délégué général du festival, ils sont tout simplement de grands révélateurs de talent au cinéma.
Olivier Gourmet existe grâce aux Dardenne. Rappelez-vous La Promesse, le père et le fils. Le fils est Jérémy Régnier, qui a 16 ans. Voilà. Et ce sont des gens maintenant, ils font 5 films par an. Et ce sont vraiment des grandes figures du cinéma. Émilie Dequesne, même chose. Déborah François, même chose. Fabrizio Roncione, même chose. Donc ils ont inventé toute une génération de comédiens autour d'eux qui ont été révélés par eux, qui ont été un peu aussi façonnés par eux. Mais vous verrez Olivier Gourmet dans L'exercice du pouvoir de Pierre Scheller, qui sera là aussi. Bah, il fait ce que fait n'importe quel grand acteur. Donc ce ne sont pas des gens que des Dardennes, mais ils sont devenus des grands acteurs grâce au début aux Dardennes. Et puis c'est vrai qu'il y a eu Cécile de France, qu'il y a eu Adèle Haenel, et il y a eu aussi Marion Cotillard, qui est la plus célèbre de toutes, qui malheureusement, je pense, parce qu'elle attend un bébé, je crois, ne pourra pas venir. Enfin, on ne sait jamais, mais je pense que non. En tout cas, Marion Cotillard, elle est dithyrambique sur son expérience avec les Dardennes.
Et parmi les nouveautés du festival, on retiendra notamment la création d'une récompense, le prix Jean-Claude Brialy, grand acteur, ancien Angevin et ex-directeur du Festival d'Anjou. Claude-Éric Poirot, délégué général du festival, tenait à lui rendre hommage.
Il a été, vous savez, membre de mon comité de parrainage. Il venait tous les ans d'une grande, grande fidélité. Quelqu'un de très classieux. Bon, il est mort il y a 10 ans. Et cette année, on s'est dit, c'est important qu'on rappelle qui il était. Parce que, non seulement c'est un grand acteur, très populaire, connu de tous, mais aujourd'hui aussi, voir comment un jeune acteur comme lui, en débutant, est devenu l'acteur de toute la nouvelle vague en France. De Chabrol, Rivette, Godard, Louis Malle, tous ces gens-là ont fait des films avec Jean-Claude Brialy, qui à l'époque débutait, il n'était pas cher, donc ça tombait bien. Et c'est donc quelqu'un qui a été, parce qu'il était très bon, très beau, et qu'il avait une gouaille et qu'il avait quelque chose, il a façonné les courts-métrages, etc. Brialy est indissociable de la nouvelle vague. Montrer aussi ça, pour nous, c'est le premier long-métrage français. Donc ça sera un prix qui sera décerné tous les ans, dorénavant, le prix Jean-Claude Brialy.
Et puis le festival se tourne également vers l'avenir. Parmi les films projetés hors concours, une quinzaine de courts-métrages interactifs issus du web.
Ce sont des gens qui ont pensé que leur film allait être sur un écran, vu par quelqu'un tout seul. Là, ça va être montré dans une salle de 200 places, avec 200 personnes, et chacun côte à côte va découvrir un film sur un grand écran. Ça leur donne une dimension qu'ils n'avaient jamais prévue, et ça leur donne un peu une petite consécration, parce que c'est un univers, le web, qui est très connu. Hein. Tout le monde est sur le web, les gamins sont sur le web. Maintenant, on ne s'y retrouve pas, il n'y a pas de hiérarchie, c'est un petit peu n'importe quoi, il y a des gens qui font des gags, et puis il y a des gens qui sont un tout petit peu plus sophistiqués, en Europe, aux États-Unis. Je me souviens d'un film l'année dernière, et c'était quelqu'un qui traversait le film en traversant le monde. C'est-à-dire que de chaque image, on passait à un autre continent. Et donc, à toute vitesse, comme ça, et d'un seul coup, on voyait le monde entier. Ce qui veut dire que le type en question, il a passé un an à aller dans tous les pays en prenant l'avion, etc., en se filmant en train de courir dans le Nevada, en se filmant en train de courir dans le désert du Tibet, en se regardant courir chez les aborigènes australiens.
Et voilà, et pour tout savoir du programme de Premier Plan, rendez-vous sur le www.premierplan.org. L'événement dure jusqu'au 29 janvier.
Et je rappelle qu'il se déroule à Angers, dans les salles du cinéma d'art et d'essai, les 400 coups. C'était Bastien Lallier de RCF Anjou, merci à vous. Et il est l'heure maintenant de se quitter. C'est la fin de cette hebdo-région des Pays de la Loire qui vous était présentée par la rédaction de RCF Vendée avec l'aide des rédactions de vos radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine.